Merci Jean.
Merci. Bon ben merci Georges. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui du 14e siècle. On est très loin dans le temps. Hein. Un peu contrairement à ce que vient de dire Georges, on a la chance en Savoie, c'est ce que j'ai dit à l'un d'entre vous tout à l'heure, d'avoir énormément de sources par rapport à d'autres régions. En France, les archives ont brûlé en grande partie dans la Sainte-Chapelle. En Suisse, c'est pareil. En Allemagne, c'est un peu pareil. En Savoie, proprement dit, on a des sources depuis le 12e, 13e siècle, ces fameux rouleaux de parchemin qui sont aux archives départementales, qui nous apprennent énormément de choses. Alors, parmi ces choses, je vais essayer de vous montrer ce soir ce que ces rouleaux de parchemin nous apprennent, par exemple, sur la vie des gens, nos ancêtres, ici même, en Maurienne, dans les vallées de montagne, en ce qui concerne la justice. La justice, c'est intéressant parce que ça permet de voir la vie des gens, quoi, à travers la criminalité, même les petites infractions. On voit les gens du Moyen-Âge vivre. Et vous allez voir que finalement, ils ne sont pas foncièrement différents, pour les plus vieux d'entre nous, ceux qui ont connu, enfin nos grands-parents au milieu du XXe siècle, avaient les mêmes problèmes que ces gens, nos ancêtres du XIVe siècle. Alors je vous ai mis en couverture une image d'Épinal qu'on avait dans nos livres d'écoliers.
Saint-Louis.
Ouais, vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis Saint-Louis, parce qu'il n'a pas grand-chose à voir avec la Maurienne et la Savoie. Hein. Ouais. Alors Saint-Louis, il est mort en 1270, pour vous situer, fin du XIIIe siècle. Pourquoi je vous parle de Saint-Louis ? Parce que ce personnage a marqué, il n'était pas tout seul pour le faire, mais vraiment une rupture dans la justice, dans la façon d'administrer la justice. Avant Saint-Louis, c'était une justice très arbitraire, on va dire. Les termes que je voulais marquer, voilà. C'était une procédure accusatoire, c'est-à-dire qu'on accusait quelqu'un et il fallait qu'il prouve son innocence à travers des épreuves physiques très difficiles, et c'est ce qu'on appelle jugement de Dieu, on va en parler. À partir de Saint-Louis, on entre dans une période où le droit romain commence à faire son apparition sérieusement, et on passe à une justice comme celle qui est aujourd'hui, c'est une justice inquisitoire. Inquisitoire, ça veut dire qui fait une enquête. Il y avait une enquête, à charge et à décharge, il fallait des preuves. Une justice comme celle qu'on a aujourd'hui, bon, qui ressemble à celle qu'on avait aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai parlé d'État moderne, parce que c'est à cette période du XIIIe, XIVe siècle où, en Savoie comme ailleurs, la justice devient beaucoup plus moderne. Que faisait-on avant cette période du XIIIe, XIVe siècle pour juger les gens, ceux qui avaient commis des infractions ou des crimes ? Eh bien, on faisait ce qu'on appelait l'ordalie. L'ordalie, c'est le jugement de Dieu. Alors, vous connaissez sans doute, c'est assez difficile, c'est que on imposait une épreuve, par exemple une épreuve par le feu. On faisait chauffer à blanc une pièce de métal. On la mettait dans la main du supposé coupable pendant un temps déterminé. Ensuite, on lâchait la pièce. On bandait sa main avec des bandelettes de cuir. Et puis trois jours plus tard, on enlevait les bandelettes. Et si la cicatrisation était correcte, cela voulait dire que Dieu avait aidé le prévenu et donc il n'était pas coupable. C'est ça l'ordalie. Hein. Alors, je vous ai trouvé une illustration ici. Vous voyez, donc, on voit ici, c'est un manuscrit du 13e. On voit, vous voyez, le morceau de fer blanc là qu'on met dans la main du condamné. Voilà. L'ordalie par le feu. Ça, c'est ce qu'on faisait donc avant cette période que je vais vous parler. Alors, quand il y avait, par exemple, deux suspects qui ne disaient pas la même version des faits, c'est-à-dire qu'il y avait éventuellement un coupable, mais on ne savait pas lequel des deux était coupable. Bon, là, on avait une procédure d'ordalie. Qui date même de l'époque de Charlemagne, hein, qui est très ancienne, c'est l'ordalie par la croix. C'est-à-dire, on plantait deux croix face à face, on attachait chacun des suspects face à face à la croix, mais en leur laissant les mains libres. Et ils devaient prendre la position du Christ en croix, comme ça, et de tenir leurs bras, voilà. Et le premier qui baissait les bras, il était coupable. Voilà le genre de justice, donc époque Charlemagne jusqu'au XIIIe siècle. Alors, l'ordalie par le feu, ça nous a laissé une expression, d'ailleurs, dans le français d'aujourd'hui, hein, c'est mettre sa main au feu. J'en mettrai pas ma main au feu, ça vient d'là. L'ordalie par la croix, pareil, on a les bras, l'expression, les bras m'en tombent ou baisser les bras. Hein, voilà. Alors voilà, je vais vous parler donc de cette région que vous connaissez bien, qui est donc la Maurienne, mais pas toute la Maurienne. puisque malheureusement, on n'a pas des sources, par exemple, pour cette partie-là. Et alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est peut-être un rappel pour beaucoup d'entre vous, parce que je l'ai dit à chacune de mes conférences. Vous avez en Maurienne, on est ici au début du XIVe siècle, hein, vers 1300. Vous avez ici une petite châtellenie, ici d'Aiguel. Châtellenie, donc, c'est un domaine qui appartient donc au comte qui est à Chambéry. Et cette petite châtellenie autour d'Aiguel, elle est bâtie autour du château de Charbonnière, hein, qui est à l'entrée d'Aiguel, et surtout des mines des Urtières. Voilà, donc c'est un coin où il y avait beaucoup de minerais, Argentine, pensez à Argentine. Voilà, donc c'était une région riche et on avait bâti cette petite châtellenie pour exploiter ses richesses. La châtellenie de Maurienne, elle, est beaucoup plus vaste. Elle démarre ici à Épierre et elle s'étend jusqu'à Lens-le-Bourg. Pourquoi ça a-t-elle à Lens-le-Bourg ? Eh bien, tout simplement parce que cette châtellenie a été bâtie sur la Via Publica, c'est-à-dire la route de Maurienne, la route qui va en Italie. C'est une route très importante, elle fait partie de ce qu'on appelle la Via Francigena, une route qui traverse la France et qui va jusqu'à Rome. Voilà, et donc c'est une branche de la Via Francigena. Et les comtes de Savoie ont eu intérêt donc à contrôler cette route, parce qu'on peut mettre des péages, on peut contrôler le trafic, etc. C'est une source de richesse. Donc voilà cette châtellenie de Maurienne, qui va jusqu'à Lens-le-Bourg. Comme à Lens-le-Bourg, on passe le Mont-Cenis, on n'a pas besoin de contrôler la suite. La suite, j'en parlais. Alors, le problème pour les comtes de Savoie, c'est que ils ne contrôlent pas toute la région. Et en particulier ici au sud, la région de Briançon, le Dauphiné, quoi. Eh bien, il y a cette frontière que vous connaissez bien, le col de la Croix de Fer, qui s'appelle le col d'Ol à l'époque, hein, à l'époque, ça ne s'appelle pas la Croix de Fer. Hein. Le col d'Ol ici, le Galibier, toute cette région n'est pas contrôlée par les comtes de Savoie, alors qu'on est en guerre. Cette région.
Ça appartenait à l'évêque de Maurienne.
Voilà, j'y viens. Donc voilà, donc cette zone-là, en fait, est contrôlée par l'évêque de Maurienne, qui lui est basé ici depuis le VIe siècle. Hein, je vous rappelle, l'évêché de Maurienne, 580 environ. Contrôle donc lui, et c'est un seigneur totalement indépendant. Il est en théorie aussi puissant que le comte de Savoie au départ. Il a les mêmes pouvoirs, on va parler de la justice, il a les mêmes pouvoirs de justice. Il a une prison, il a des soldats, il a des. Le droit de condamner à mort, il peut appeler le bourreau, etc. Il est totalement indépendant au niveau de la justice. Donc l'évêque de Maurienne contrôle cette grande vallée de l'Arvan, ici, et puis également Valoir, et puis ces deux petites paroisses, celle de Saint-André et celle d'Argentine. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le domaine épiscopal au début du XIVe siècle. Une petite parenthèse, est-ce que ceux du fond m'entendent suffisamment ?
Ça va.
Donc voilà, voilà cette zone épiscopale. Pour être complet, vous avez ici, à partir de 1326, la fameuse révolte des Arves, hein, que vous connaissez tous. Donc l'évêque est en grosse difficulté avec ses habitants. Je résume, il fait appel au comte Édouard, qui vient à son secours, et en contrepartie, le comte Édouard va administrer à égalité avec l'évêque cette zone. Donc vous voyez, à partir de 1326, la justice, elle est partagée entre l'évêque et le comte de Savoie. Les choses changent petit à petit. Ensuite, vous avez ici la zone dont je vous parlais, c'est une zone qui est administrée par l'abbaye de Saint-Michel-de-la-Cluse, l'autre côté du Mont-Cenis, dans la vallée Suse, donc qui est indépendante du comté de Savoie. Et puis, pour être vraiment complet, vous avez un personnage, je ne peux pas l'oublier, c'est celui qui est installé à Notre-Dame-du-Cruet. Ce sont les seigneurs de la Chambre, qui sont les vicomtes de Maurienne. Ce sont des gens très puissants, ils sont très, très riches, ils ont des propriétés partout, dans le Dauphiné, vers Annecy, partout. Et ils sont installés en Maurienne, à Notre-Dame-du-Cruet, où il y a le château, toujours aujourd'hui, hein, on peut le voir. Et puis à Avrieux, où ils ont ici une petite métralie. Une métralie, c'est en dessous de la châtellenie, quoi. C'est ni bon en dessous. Voilà pour une présentation rapide. Je vous montre simplement cette carte. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est une carte que je viens de réaliser. C'est pour vous montrer la population de Maurienne à cette époque. Alors, c'est pas la peine de regarder en détail. De toute façon, c'est illisible. Mais simplement vous montrer que ce sont les nombres de feux, c'est-à-dire les foyers fiscaux, pour parler comme aujourd'hui. On s'aperçoit, ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un, c'est à Georges, j'en parle, que la population, donc on est ici autour de 1331, juste avant la Grande Peste, les villages de montagne sont bien plus peuplés que les agglomérations de vallées. Hein. À l'exception peut-être ici de Saint-Michel, qui est vraiment la plus grosse ville de Maurienne, hein, c'est très important. Là, vous voyez, la vallée de l'Arvan, j'ai mis un gros truc, mais parce que je ne peux pas différencier. Au XIVe siècle, on ne peut pas connaître avec précision chaque paroisse. Donc, c'est pour ça que là, j'ai mis un gros camembert, mais en fait, les paroisses sont peuplées, quoi. Vous voyez, les Villars, 294 feux, on va dire 300 feux. Un feu, vous comptez entre. Les historiens comptent 4 à 5 personnes. Voilà, donc 300, ça fait 1200, 1500 personnes, hein, quand même, au Villard. Pour vous situer, à la chambre, vous voyez, vous avez 141 feux, hein, c'est-à-dire peut-être 500 personnes, vous voyez. Voilà, c'était une petite parenthèse. Pour vous dire des choses que j'ai découvert même avec surprise, c'est que vous connaissez la population de la Maurienne aujourd'hui, en comptant avec Belle, hein, la vallée totale.
42 000.
Oui, exactement, c'est 42 000. 2018, ça doit être 42 000. Voilà, voilà. Donc 42 000 habitants aujourd'hui en Maurienne. Si on remonte dans le temps, je remonte à 1776, on a 41 000 habitants. Je remonte deux siècles avant, 1561, c'est la gabelle du sel, vous savez, on a repéré tout le monde là. 1561, on a 41 000 habitants. Moi j'ai fait mes calculs, qui sont évidemment beaucoup moins précis que ceux des périodes après, hein. J'estime à 38 000 habitants, plus ou moins 4 000. C'est étonnant. C'est comme si la démographie de la Maurienne suivait une sorte de courbe malthusienne. Vous voyez que le malthusianisme, vous voyez ce que c'est que bon, le nombre d'habitants est limité par les contraintes naturelles. On ne peut pas nourrir plus de personnes, donc on ne peut pas avoir plus de 40 000 habitants. Et oui, c'est étonnant, c'est que même aujourd'hui, bon, on n'a plus de problème d'alimentation, hein, mais on est toujours à 40 000 habitants. Voilà, c'est une remarque que je voulais vous faire parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, comment est organisée... Je reviens à ma justice, hein, c'est le sujet d'aujourd'hui. Comment est administrée la justice? Alors, vous avez le centre de la châtellenie, où se trouve le châtelain, c'est la chambre. Ici, il est installé, c'est le grand chef, hein, de la région. C'est un fonctionnaire, en fait. Il est payé par le comte de Savoie. Le comte de Savoie envoie des gens généralement extérieurs à la vallée pour pas qu'il y ait trop de corruption, hein, de prévarication. Donc, il reste en général très peu de temps, une année, deux années. Et puis, au cours du XIVe siècle, les choses vont changer. Il y a des châtelains qui vont rester 10 ans, 20 ans, il va s'installer. Bon. Voilà, le châtelain, le personnage important, est installé à la chambre. Vous avez également des métros. Les métros, ce sont des adjoints du châtelain. Eux sont par contre des gens du coin. Alors, ils ne sont pas forcément du village. Vous en avez quatre en Maurienne. Vous en avez un qui est à la chambre, que je n'ai pas représenté. Vous en avez un Saint-Michel, un Modane et un Termignon. C'est les principales localités, ce qu'on appelle des métralies. Ensuite, vous avez à Saint-Jean-de-Maurienne, vous avez un courrier qui existait déjà de longue date, mais à partir de 1327, le traité de Rendant suite à la révolte des arts, le courrier de Maurienne va être payé à la fois par le comte et par l'évêque, puisque la justice est administrée par les deux. Donc l'avantage de ce courrier, je l'ai trouvé assez sympathique parce qu'il écrit bien et il détaille bien ces textes. Il met des anecdotes, on en verra quelques-unes tout à l'heure, davantage que les clercs qui font la comptabilité du comté de Savoie. Vous avez ici également un personnage pour la justice qui est important, c'est le juge de Maurienne et Tarentaise. Il y en a un seul pour les deux vallées. Il habite donc à Briançon-Salins, en Tarentaise, et il a également une maison à Pont-à-Maffray. Alors, ce juge est un juge itinérant. C'est-à-dire qu'il se déplace dans les principales localités. Il ne fait que ça tout le long de l'année. Et il tient des assises, donc sur place, quoi. Et c'est là que se sont rendus les jugements pour les affaires les plus graves. Vous avez des personnages secondaires. Vous avez le vice-châtelain, comme son nom l'indique, c'est tout simplement l'adjoint du châtelain. C'est souvent celui qui reste sur place quand le châtelain, lui, va se promener dans ses propriétés en Isère ou en France. Les châtelains ne sont pas toujours là. Donc le vice-châtelain, en latin, c'est le locum tenens. Si on traduit littéralement, c'est celui qui tient le lieu. En français, ça donnait le lieu tenant. Voilà. Le vice-métral, bon, pas besoin de détailler, hein, l'adjoint du métral. Et puis les gardes champêtres, gardes forestiers, gardiens des vignes, ce sont des gens qui sont embauchés pour faire le travail que l'on a connu au XXe siècle et qui sont habilités à mettre des amendes aux gens. Comme un officier assermenté. Alors ceux-là sont bien sûr des gens de la paroisse, hein, la plupart du temps. Simplement, il faut qu'ils soient agréés par le châtelain. On ne peut pas être garde champêtre comme ça, simplement en étant désigné par les habitants. Et puis, vous avez ici donc l'autorité suprême, ici à Chambéry, à côté du comte, hein, c'est le conseil résident. Et le conseil résident, avec une cour d'appel... Ah oui, déjà, au XIVe siècle, il y a une cour d'appel. Ce qui veut dire que si vous contestez, vous avez fait une infraction, que vous êtes verbalisé, vous pouvez envoyé un courrier au comte de Savoie, enfin au conseiller résident. On appelle ça une lettre de supplique, en disant voilà, je vous demande une remise sur ma pénalité parce que je ne suis pas coupable. Ou... Oui, donc on peut déjà faire appel. Et la plupart du temps, ça, le comte, alors le comte ou le conseiller résident, répond favorablement, spécialement si vous êtes un homme qui dépend de lui. C'est que les hommes dépendent d'un seigneur à l'époque. Donc là, si vous êtes un homme du comte, il est généralement plus gentil avec vous que si vous êtes un homme du vicomte de la chambre ou un homme de l'évêque. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà donc pour cette partie. Alors les sources, j'en parle rapidement. Je vous ai dit qu'on avait des sources assez remarquables dans ces rouleaux de Châtelny. Hein. Alors, ce qui concerne la basse justice, c'est ça. Évidemment, c'est tout ce qui n'est pas très grave. Hein. Aujourd'hui, par exemple, une contravention d'excès de vitesse, voilà, c'est l'équivalent au Moyen-Âge, une infraction qui n'est pas très grave et qui peut se régler de façon relativement simple. Simplement pour une amende. Et puis, vous avez la haute justice. Donc là, c'est les choses beaucoup plus graves, hein, jusqu'au crime. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, la basse justice, on les trouve simplement dans les recettes des amendes, puisque vous payez une amende, donc c'est comptabilisé, on voit l'amende. Ça permet de voir l'infraction. La haute justice, on voit davantage dans ce qu'on appelle les librates, c'est-à-dire les dépenses. Parce que quand il y a un jugement, il faut incarcérer la personne, il faut la nourrir, il faut également payer éventuellement les officiers qui l'ont capturé si c'est enfui, il faut payer le bourreau si on fait appel au bourreau, etc. Donc ces dépenses, elles sont consignées et c'est comme ça qu'on les obtient. Voilà. Vous pouvez m'interrompre hein, si je ne suis pas clair. Alors l'intéressant, c'est que j'ai travaillé sur un gros corpus de données, environ sur une période de 110 ans, ce qui permet d'avoir déjà de pouvoir faire des statistiques qui sont à peu près fiables, puisqu'on joue à peu près sur 10 000 infractions, ça commence à être représentatif. Alors la basse justice dont je viens de vous parler, donc les infractions mineures. La verbalisation, eh bien comme je vous l'ai dit, ce sont les officiers locaux généralement qui les font, hein, les petites infractions. Ça se passe au niveau des métros, des vice-métros, des cartes champêtres, etc. Alors, on appelle ça des amendes de concorde, bana concordata, c'est-à-dire que vous êtes verbalisé, vous allez payer votre amende au métral, ou au châtelain, ou vice-châtelain, enfin, la personne habilitée à recevoir votre argent, et puis voilà, ça s'arrête là, quoi. Comme aujourd'hui, vous avez une amende, je reprends le même exemple, infraction au code de la route, excès de vitesse, vous payez votre amende, vous n'allez pas au tribunal. Si l'excès de vitesse n'est pas excessif. Voilà. Ben c'est pareil, on s'arrange comme ceci. Alors, il se trouve que les Mauriennais, c'est sans doute vrai dans d'autres régions, mais ils ont un peu du mal à payer quand même leurs amendes. Donc, l'année suivante, il y a ce qu'on appelle les pénis prétis, c'est-à-dire les pénalités qui n'ont pas été honorées. Donc, on en remet une couche, et, comme aujourd'hui, hein, une pénalité, quoi. Voilà. Et puis, bon, si vous ne payez toujours pas, ben, ça va remonter au juge, le fameux juge dont je vous parlais. Et on arrive à ce qu'on appelle les bana condemnata, c'est des amendes suite à condamnation, donc c'est plus cher, forcément. Et puis là, ça s'est passé par la justice. Alors, il n'y a pas encore de casier judiciaire à l'époque, hein, mais bon, ça n'a pas été inventé encore. Alors, la diversité des infractions, ça, c'est assez amusant. Vous avez le traditionnel voleur de poule. Vous verrez, c'est comme au XXe siècle. Alors, je ne dis pas le XXIe, parce que je ne vis plus ici dans le XXIe, mais... À l'époque du XXe siècle, c'était comme ça que ça se passait. Vous avez... Alors, le port d'armes illégal, c'est également une infraction qu'on retrouve. En fait, la règle, c'est que, déjà, vous n'avez pas, si vous êtes un simple habitant, vous n'avez pas le droit d'avoir une épée. C'est que les nobles qui ont une épée. Et même les nobles, ils n'ont pas le droit, en ville, de sortir leur épée. Ils peuvent la porter, mais pas la sortir. Et le simple habitant, qui a le droit d'avoir un couteau, il ne doit pas le montrer en ville. On prévoit la violence, quoi. Le marquage illicite de bétail, alors je trouve des Mauriennais, j'en ai trouvé à Mont-Denis, là, qui y a un petit troupeau d'agneaux qui viennent juste de naître. Il a mis ses marques, on fait comme aujourd'hui, on met des marques sur, il a mis sa marque sur les agneaux d'un autre, et il les a récupérés, voilà. Pof, verbalisé, quoi. Le gars a porté plainte, c'est allé jusqu'au métral, et le métral lui a infligé une amende, quoi. Alors je vais peut-être vous montrer, après j'aurai peut-être besoin de vous montrer les citations, mais je verrai après. La perturbation de l'office divin. Alors, la messe, c'est un moment très important, comme vous le savez, parce que, en général, c'est à la sortie de la messe, sur le parvis de l'église, où les gens se réunissent pour discuter des affaires de la paroisse. Donc ça, c'est systématique. Mais quelquefois, les différences se règlent même à l'intérieur de l'Église. Et j'ai au moins une dizaine de cas où les gens se battent dans l'Église, quoi. Donc pareil, ça c'est pas très bien vu. Là, c'est le curé qui porte plainte. Et voilà. Bon. Le non-respect du bornage des propriétés. Alors ça, c'est des gens... Non, ça n'existe plus aujourd'hui, mais... Là, j'ai pas mal de gens qui déplacent les bornes.
Des pierres,
voilà. Ils déplacent les bornes, et donc pareil, là, c'est verbalisé. Et je ne sais pas comment ils verbalisent, parce qu'il n'y a pas de cadastre. Hein, donc c'est un peu la parole... Enfin, en fait, c'est les témoins qui comptent. C'est-à-dire qu'on réunit des témoins, s'il y a beaucoup de personnes qui disent non... il avait sa limite, elle était là, j'en suis sûr. Mon grand-père l'a vu ici, et mon arrière-grand-père aussi. Donc là, vous voyez, s'il y a plusieurs témoins qui le disent, ça marche. Ah, c'est beaucoup plus tard, Oui, c'est beaucoup plus tard. Ouais. Passage d'un territoire ennemi. Alors pourquoi j'ai marqué ça? Parce qu'effectivement, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des guerres dans le début du XIVe siècle. Les Savoies, enfin les comtes de Savoie sont en guerre avec le Dauphiné essentiellement. Et c'est des guerres presque continuelles. Et donc, si vous êtes Mauriennais, que vous êtes Foncourtin, que vous allez passer le col d'Arles, que vous allez dans le Dauphiné, et puis que vous revenez trois jours après, quand vous allez revenir, on va se demander ce que vous êtes allé faire en Dauphiné.
Donc, sauf si ramène du sel.
Dans tous les cas, vous êtes verbalisé, parce qu'on considère que vous êtes probablement un espion. Donc ça, c'est interdit pendant la période de guerre. Après, on n'entend plus parler à partir de 1340 à peu près, ça disparaît. Le péché charnel des prêtres. Ah ouais, là, je vais vous donner une petite seconde, je vais essayer de mettre en route. Il faut que je retrouve ça. Je vais mettre en route, mon moteur de recherche, si j'y arrive, voilà. Si j'arrive à le mettre en route, voilà. Je vous demande 30 secondes. Hein. Voilà, je vais mettre en route ça. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, je remets ça à justice avec. Voilà. Et apparemment, hop. Voilà, je reviens à ça. Donc, j'étais au péché charnel des prêtres. Voilà. Alors là, je vais essayer de vous montrer un exemple. Alors en fait, ça c'est donc, je vous l'ai dit, sur des rouleaux de parchemin. Et je les ai transcrits, donc et je les ai ici donc représentés. Vous avez ici le texte latin, et puis vous avez quelquefois la traduction. Voilà. Ici, comme par hasard, vous voyez, c'est une dame qui s'appelle Audison. C'est la femme de Anthelme Beautet, je crois qu'ils sont de Sainte-Marie-de-Cuine, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été condamnée pour un adultère commis avec un certain curé, dont on cache le nom. Et c'est la femme qui est condamnée, c'est un curé. Voilà. Le mauvais comportement en cavalcade. Alors, la cavalcade, qu'est-ce que c'est? On appelle ça aussi des chevauchées. Je vous ai parlé de la guerre, hein, donc la guerre, il faut des soldats. Alors, à l'époque, on mobilise des gens dans chaque paroisse. Ce ne sont pas des soldats, on appelle ça des clients. Mais c'est comme un soldat, si vous voulez. Chaque paroisse, en fonction de sa population, doit fournir un certain nombre de clients. Une sorte de service militaire obligatoire, qui est très réglementé d'ailleurs, parce qu'on n'envoie pas les gens n'importe où. Par exemple, les Mauriennais peuvent aller jusqu'au Concile et faire la guerre. Ils ne peuvent pas aller en Italie, ils ont le droit de refuser. Et puis de l'autre côté, je crois, alors je ne me souviens plus bien de la limite, mais bon, ils ne peuvent pas aller dans l'Ain, par exemple. Vous voyez, on limite parce que c'est loin quand même, hein, on marche à pied, donc il y a les récoltes à faire, etc. Donc on essaie d'arranger les gens. Ils vont à la guerre, mais pas très loin. Et puis, certains ne se comportent pas très bien en cavalcade, alors voilà, donc ils sont pénalisés, ils ont une amende simplement. Et puis mieux que ça, c'est que beaucoup de Mauriennais, et c'est valable en Tarentaise, c'est valable dans la plupart des châtellenies, La plupart des... Beaucoup de Mauriennes refusent d'aller à la guerre, tout simplement parce qu'ils ont du travail. Alors, ça se passe très bien au Moyen-Âge, enfin, à cette époque. Ils ne sont pas qualifiés de déserteurs. Ils doivent simplement payer une amende. Et tout le monde y trouve son compte, y compris le comte de Savoie, parce que le comte de Savoie récupère de l'argent, ce qui lui permet de payer des mercenaires qui sont beaucoup plus efficaces que nos paysans de Maurienne qui ne sont pas des militaires. Voilà. Alors on les appelle des clients et pas des soldats, c'est une chose que j'ai déjà dite, hein, mais je répète. Les soldats, ce sont des gens qui sont payés, qui sont soldés. Le mot vient de le solidus en latin, c'est le sou, voilà. Donc soldés, voilà. Donc on les appelle des clients, c'est le nom qui est donné à l'époque aussi, on appelle ça des clients.
Mais c'était une durée limitée.
Ils ne sont pas payés, et c'est une durée limitée, absolument. La durée est limitée dans le temps.
Si c'était fini, ils partaient. Hein.
Voilà. Il y a l'épisode de la... J'en ai parlé, alors je répète peut-être précédemment, dans une autre conférence, quand il y a eu la révolte des armes ici. Bon, ben, le comte de Savoie a réuni une chevauchée, une cavalcade à Saint-Jean-de-Maurienne. Il a convoqué tous les Maurienais, puis les Chambériens, etc., à venir à Saint-Jean-de-Maurienne. Et on s'aperçoit que cette année-là, les amendes pour non-participation, il y en a deux pages. C'est-à-dire que les Mauriennais, c'est assez compréhensible, n'ont pas voulu venir réprimer des gens de chez eux, finalement, qui font du commerce avec eux, qui leur vendent leurs vaches, etc. Ils ont dit, moi, je ne vais pas me battre contre les gens des arbres. Voilà. Donc, voilà. Donc là, cette année-là, vous avez des amendes pour non-participation qui sont... Ça tient deux pages, deux pots de parchemin. La maltraitance envers les animaux, déjà au Moyen-Âge, on fait attention à ça, c'est-à-dire que maltraiter un animal, c'est précieux, surtout un cheval ou une vache. Hein. Donc, si vous êtes surpris à faire du mal à une bête, vous êtes verbalisé. S'en prendre à la chevelure d'une femme. Alors, ça peut paraître bizarre, mais au Moyen-Âge, la chevelure d'une femme, c'est quelque chose qui caractérise sa féminité. Et c'est quasiment un viol que de s'en prendre à sa chevelure. C'est une injure très grave. On en reparlera un peu plus loin. Les dés pipés dans les jeux de hasard. Au XIVe siècle, vous avez déjà une police des jeux. Vous avez, je vais vous montrer l'exemple. Hein. Oh, j'en ai pas trouvé des centaines. Hein. J'en ai pas trouvé des centaines, mais vous avez ici un certain, il s'appelle Humbert. Son père s'appelait Humbertet. Voilà, qui a dénoncé de façon téméraire un certain Jean Pay qui aurait soi-disant joué avec des taxilos plombatos, hein, des dés plombés. On dirait des dés pipés aujourd'hui. Voilà. Alors, mais vous voyez qu'il a été accusé à tort parce qu'il a. En fait, on n'a pas pu prouver qu'il avait des dés pipés. Je suppose que le tricheur, il a planqué ses dés pipés et puis il a dit oui, mes dés sont. Bon, enfin, on n'a pas pu le prouver, donc c'est celui qui l'a dénoncé qui est puni.
Oui.
Eh oui, fausse dénonciation. Donc je reviens sur ma présentation. Hop là. Des passeurs pour éviter les péages. Ah oui, ça c'est. Ça existe, hein. Je vais vous le prouver. Alors vous avez ici. Un certain Hugues, qui est le fils de Jean Lambert. Jean Lambert qui est de... Alors, je ne sais pas s'il est de Foncouverte, mais en tout cas, il est de la vallée de l'Arvan. Qui a été inculpé d'avoir aidé et favorisé certains Lombards, des marchands Lombards, pour traverser avec leurs troupeaux à travers le col de la Roue. Vous voyez ici, col de la Roue. En passant par les terres du Dauphin, donc le Dauphiné, pour éviter les péages. Ah oui, le péage, il est à Lens-le-Bourg. En fait, il est au Mont-Cenis, mais comme il y a souvent de la neige, il se plie plutôt à Lens-le-Bourg. Donc on passe au Mont-Cenis et on paye le péage. Alors là, en passant par le col de la Roue, on arrive à Modane. Et donc on évite le péage. Voilà. Alors là, il n'y en a pas énormément, mais c'est quand même. Ce n'est pas rare. Vous le savez aussi dans cette région, mais là c'est tout à fait légal. Vous avez les marrons. Ça, vous le savez, hein. Les marrons qui sont installés, alors, il y en a un peu partout, à Aussois, à Termignon, à Lens-le-Bourg, Lens-le-Villard aussi. Donc, c'est des gens qui sont des artisans du voyage, hein, qui transportent les voyageurs sur le système de la ramasse, hein, je veux dire, pour ceux qui, tout le monde connaît ça, une sorte de luge, hein, pour descendre sur la neige, voilà. Donc là, on a énormément de récits au 16e, 17e, etc. On ne savait pas s'ils existaient depuis longtemps. En fait, moi, j'ai vu qu'au 14e, j'ai beaucoup de marrons. Quoi. C'est un, des marrons, oui, c'est des métiers. C'est un métier. Et on les a, j'en ai même trouvé des marrons qui transportaient des arquebuses en Italie. Ouais, enfin, une arquebuse, hein, ici, mais il y a plusieurs. Donc, ce sont des transporteurs routiers, quoi, en quelque sorte. Bon, c'était une parenthèse, hein, ça n'a rien à voir avec la justice. La bigamie. Alors là, si vous voulez, il n'y a pas d'état civil. Alors, il y a des gens comme ça qui se. Soit qui se marient deux fois. Là, je suis allé un peu vite, là, pardon. Hop là. La bigamie, alors il y a plusieurs exemples ici. Vous avez le premier, c'est Jean Pasquier, qui a. Yura Berat, qui a juré à deux épouses, c'est-à-dire qui a fait deux promesses de mariage. Il a dû en faire une dans sa. Je crois qu'il est de Saint-Julien. Il a dû en faire une à Saint-Julien, puis peut-être qu'il a rencontré une nana à Lens-le-Bourg et il a fait la même chose. Et ça, c'est pas bien de jurer, de faire deux promesses de mariage. Donc là, il est puni. Voilà. Le deuxième, eh bien, lui, il a carrément. Il s'appelle Perronnet, il est des Arves. Il a pris deux épouses, lui, carrément. Ouais, donc, quand on s'en aperçoit, bon, bah, il paye en fait qu'une amende. Alors, il est assez cher quand même, à 3 florins, là. Vous voyez, c'est quand même une somme importante.
C'est juste des amendes.
Voilà. Et 5 deniers gros. Alors, 5 deniers gros, je vous leur dirai plus tard, mais pour vous situer ce que c'est qu'un denier gros dans le montant de l'amende, un denier, c'est le salaire d'un ouvrier qualifié par jour. C'est-à-dire qu'un maître maçon, un maître charpentier, il gagne un denier gros par jour. Le gros tournoi, c'est la monnaie de Saint-Louis. Voilà. Donc, un manœuvre gagne la moitié, un demi-denier. Donc là, il gagne. Alors, le florin, je crois que ça fait 12. Il faut multiplier par 12. Ça fait 4 fois 12. Ça fait donc 48. 48 plus 5, ça fait donc 53. 53 jours du salaire d'un ouvrier très qualifié. Voilà, pour vous situer le montant de l'amende. Voilà, bon, bah, le dernier, c'est Jean Pilla. Bah, il fait pareil, il a pris deux épouses, quoi. Donc, non, je pense que... Non, parce qu'après, il y a un problème au Moyen-Âge, c'est qu'il y a une force très importante de répression, c'est la religion. C'est-à-dire que le gars, si maintenant qu'il est découvert, il va être exsouminé, s'il continue. Et ça, c'est très, très grave. Donc, les gens, je suppose... Alors, j'ai pas la suite de l'histoire, mais je suppose qu'il a dû s'arrêter quand même. Il a dû faire autre chose, sinon, il file en enfer direct, quoi. Création d'associations illicites. Alors, je vous dis un mot des... Dans chaque village, comme à Foncouverte, vous avez des communautés d'habitants. Au XIVe siècle, les gens se regroupent. On appelle ça une université ou une communauté. C'est les deux mots qui sont employés en latin. Et les gens, bah, c'est pour défendre leurs intérêts, quoi. Plus on est nombreux, plus on arrive à se défendre vis-à-vis des puissants. À leur tête, ils ont un syndic ou plusieurs syndics. Alors ça, vous pouvez peut-être je m'adresse aux plus anciens. Vous avez connu des gens qu'on surnommait ou qu'on appelait syndic encore dans l'ancien temps. Parce que moi, j'ai un vieil oncle que j'ai connu dans les années 60 à Saint-Pancras. On l'appelait syndic. Parce que son père était syndic. Et c'est une fonction qui a duré très longtemps. Hein. Au XIXe siècle, il y avait encore des syndics. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler à Foncouverte. Non. Ben voilà, donc le syndic et son association, la communauté d'habitants. Voilà. Alors pour créer cette communauté d'habitants, eh bien, on dirait aujourd'hui qu'il faut la déclarer en préfecture. Quoi. À l'époque, il faut avoir l'autorisation. On n'a pas le droit de faire ça. De même, pour choisir les syndics, il faut qu'ils soient agréés par le châtelain de Maurienne. Vous voyez, je vous parlais au tout départ de l'État moderne. On est déjà dans un État très, très structuré. Quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Donc, si vous faites une association illicite, vous êtes verbalisé. L'engagement de la responsabilité parentale, là, je ne vous montre pas l'exemple. C'est un gamin qui jette un caillou au voisin, il vient lui prendre un caillou dans la tête, et ben c'est le père qui paye l'amende. Voilà, instigation de meurtre, ça, c'est intéressant aussi, parce que le commanditaire d'un meurtre est condamné. Alors, mais condamner simplement une amende financière, je vous rappelle, on est toujours dans les amendes à l'amiable. Hein, on paye de l'argent, c'est tout. Ça ne passe pas devant le juge pour l'instant. Alors ici, on a une certaine Jeannette, qui est la femme de Pierre Germain de Montpacal, qui était inculpée d'avoir persuadé et donné de l'argent à un certain Jacquemet Tardy, qui avait pour qu'il tue le mari de sa fille. Donc, pour qu'il tue le gendre de cette fameuse Jeannette. Voilà. Et pour cela, elle lui avait donné 5 florins. Voilà. Donc là, c'est elle qui est condamnée. Donc, elle doit payer une amende. Vous voyez, 6 sous, 8 deniers. Je fais toujours la même multiplication. 1 sou, c'est 12 deniers. Donc, 6 fois 12, 72. Plus 8, 80 deniers. 80 jours, le salaire d'un, Vous voyez qualifié. Voilà, donc je vous en montre encore quelques-unes. La négligence dans la garde des enfants, là, c'est une nounou, on dirait aujourd'hui, qui a la charge d'un enfant, qui le laisse au milieu de la voie publique, là, devant le cimetière, là. Et puis les gens s'en aperçoivent, donc la dénonce, et elle est condamnée. Elle paye une amende. La violence conjugale, bon, là, j'ai toute une liste, hein, mais ça existe déjà. Hein, ça existe déjà, voilà. Voilà, c'est souvent en latin qui verba berat uxorem suam, qui a battu sa femme. Voilà, ça, c'est très, très fréquent. Voilà. Étonnamment, je n'ai pas de traces de féminicide. J'ai des traces de meurtre, hein, mais pas de traces de féminicide. C'est étonnant. Alors, ça peut être un effet de source, c'est-à-dire qu'on a fait passer, que ça n'apparaît pas dans les sources, hein, parce qu'on a fait passer la mort de la femme pour une mort naturelle, je ne sais pas, mais je n'ai pas de traces.
Et le rôle des espèces?
Pardon? J'ai pas
le
compris.
Vol. Ouais. Le chapartage, le vol.
Ah oui, mais bien sûr, le vol, ben on va en parler du vol. Parce que, voilà. Le crime d'inceste aussi. On en trouve assez fréquemment. Je vais vous en donner un exemple. Enfin, on va en prendre, j'en ai beaucoup, mais j'en prends un seul. Voilà. Alors, on va prendre, par exemple. Je vais prendre des lunettes, j'y vois rien. On va prendre, par exemple, voilà, le cinquième ici. Vous voyez, celui-là. Celui-ci, alors c'est un certain Jean qui est le fils de Guillaume Borel. Je crois qu'il est jarrier, je ne suis pas sûr. Mais oui, c'est jarrier. Donc il est mort, ce Guillaume Borel, donc il a un fils qui s'appelle Jean. Et ce Jean a eu des relations avec Marguerite, qui est la veuve d'un autre Jean qui est lui-même le fils de Richard Borel. Alors en fait, Richard Borel et Guillaume Borel sont deux frères. Ils ont eu chacun un fils qui s'appelle Jean. L'un des Jean est mort, il a laissé une veuve qui s'appelle Marguerite. Et Marguerite et le premier Jean, voilà, ont eu des... Alors, aujourd'hui, ça ne serait pas un crime d'inceste, puisque c'est une relation entre... Hein, d'accord ? Ça, c'est même pas sa belle-sœur. C'est la femme de son cousin. C'est la femme de son cousin, c'est pas sa belle-sœur. Donc, aujourd'hui, on ne considérait pas ça comme un crime d'inceste, mais à l'époque, au Moyen-Âge, la famille, c'est très large. Ça va jusqu'au 9e degré. 9e degré. C'est-à-dire que 9 degrés, on considère que c'est encore un cousin, que c'est encore quelqu'un de la famille. Donc voilà pourquoi celui-ci est inculpé. Voilà, et puis bon, bien sûr, l'infraction de domicile, évidemment, c'est s'il ne faut pas le faire, quoi, c'est verbalisé, mais on reste toujours dans des amendes de basse justice. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas de juge qui intervient pour ça. En général, ça marche très bien. Un petit mot pour l'adultère, j'en ai pas parlé là, mais l'adultère, par exemple, pour le constater, il faut aller dans la maison où devrait se situer le lieu de l'adultère pour surprendre les contrevenants. Et on doit frapper 3 fois de suite à la porte de la maison pour vérifier qu'il y a quelqu'un, si quelqu'un sort, voilà. Et si au bout de 3 fois, personne n'ouvre, un officier assermenté doit ouvrir la porte et vérifier. Voilà, c'est la procédure. On fait comme ça. Constat d'adultère. Alors, un cas particulier d'injure. L'injure, j'en parle un peu davantage, c'est que c'est un crime très grave au Moyen-Âge. Parce qu'on atteint la dignité de la personne. C'est beaucoup plus grave qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, bon, c'est quelque chose qui n'est pas très... On en entend tous les jours à l'Assemblée nationale. À l'époque, injurer quelqu'un, c'est vraiment presque le blesser physiquement, quoi. Et particulièrement, s'en prendre à son caputium. Alors, qu'est-ce que c'est que ce caputium ? Caputium, en latin, oui. C'est un capuchon, en fait. Hein. Voilà, c'est ce vêtement qui est porté au Moyen-Âge aussi bien par les hommes que par les femmes. Donc, il couvre la tête et les épaules. Et je vous ai trouvé ici un personnage, le personnage de droite, vous voyez, il met quelque chose dans son capuchon. C'est aussi un endroit qui sert de poche pour mettre des papiers importants ou pour mettre de l'argent, par exemple. Donc s'en prendre au capuchon de quelqu'un, c'est très grave, en public, bien sûr, parce que le capuchon, on ne le porte pas dans les champs quand on travaille. Hein. On ne le porte pas non plus à l'église, pour une autre raison. C'est qu'à l'église, on doit être asexué. Donc on n'a pas, avoir de coiffe, voilà. Donc, quand vous enlevez le capuchium d'un homme, vous en prenez directement à sa virilité. Donc là, c'est très, très grave. Et pour une femme, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la chevelure, c'est pareil, c'est un crime contre sa féminité, quoi. Le non-respect de la femme. Donc voilà un cas particulier d'injure. Alors je vous donne rapidement quelques statistiques. C'est quand même intéressant de voir ces statistiques, vous allez voir. Alors regardez pas en détail les choses, je vais simplement vous montrer par exemple, en jaune c'est l'argent, hein. C'est le montant des amendes, et en noir c'est le nombre d'amendes. Alors, prenons les courbes jaunes, vous voyez qu'au début du siècle, 1279, il y en a très peu, et puis ça monte en flèche, jusqu'au moment ici, on est vers la peste, hein. Par ici, vous voyez, ça reste très important. Et puis après la peste, hop, ça chute. Alors, c'est intéressant parce que comment peut-on interpréter ceci ? Alors, au début du siècle, c'est tout simplement que cet État moderne se met en place. Les châtelains, ils sont très peu nombreux, les métros, il n'y en a pas encore partout. Les choses se mettent en place, l'administration se met en place. Et les habitants de Maurienne prennent l'habitude de s'en référer à la justice du comte, qui est certainement plus équitable que la justice locale, quoi. Donc, la justice du comte devient de plus en plus performante ici pendant la première moitié du siècle. C'est également, je reviens pas dessus, mais c'est l'époque des cavalcades. Donc, il y a beaucoup d'amendes pour les gens qui ne vont pas en cavalcade. Donc, ça rapporte de l'argent. Pour la période suivante ici, bah, évidemment, la peste. Pour la peste de 1348 en Maurienne, j'arrive, comme d'autres chercheurs avant moi, à 50% de morts. On pensait que c'était de l'ordre de 30 à 40%, mais c'est 50%. La moitié de la population est morte, donc il y a moins d'habitants. Donc moins d'habitants, il y a forcément moins de contraventions. Donc ça, c'est une bonne explication déjà de la chute, hein. Mais il y a d'autres raisons. Il y a par exemple de plus en plus de règlements à l'amiable. On appelle ça des compositions. Et dans la deuxième partie du siècle, les gens prennent l'habitude de s'arranger un peu comme ça, donc à payer une amende réduite. Au métral ou à celui qui... Voilà. Directement, rapidement, paiement comptant, etc. Et voilà. Également, la prévarication, je vous en ai parlé un petit peu. Vous avez ces châtelains qui restent en place pendant très longtemps et qui se prennent un peu pour des petits seigneurs locaux et qui s'arrangent un peu avec les gens. Donc, ouais, je ne les fais pas payer ça, mais tu me donnes une botte de foin, enfin, tu me donnes une botte de blé. Voilà. Corruption. Alors, j'ai des exemples précis. On a un châtelain en 1340 qui était puni parce qu'il gardait une partie des recettes pour sa caisse personnelle, quoi. Voilà, on s'en est aperçu, on a refait les comptes et ouais. Alors, il s'en est très bien tiré. Hein. On lui a demandé simplement de rembourser ce qu'il avait piqué, et puis on l'a muté. On l'a muté dans une autre châtaignée, il était muté dans la Vénissuse. Voilà. Et puis bon, je vous ai parlé de ce monde plein, c'est une notion qu'il faut bien avoir en conscience, c'est qu'avant la peste, on est dans le monde plein, c'est-à-dire. Il n'y a pas d'espace disponible. Tous les terrains sont utilisés, les alpages sont utilisés. Il faut essayer de trouver un compromis entre trois choses importantes. Les terres labourables et cultivables, pour les céréales, etc. La forêt, et puis les pâtures, les alpages. Si vous abattez des forêts pour faire de nouvelles terres labourables pour nourrir la population, vous avez moins de bois, mais le bois, c'est indispensable. Parce qu'on se chauffe au bois et on construit les maisons en bois. Donc il faut chercher le compromis, et c'est très difficile parce qu'il n'y a plus de terre disponible. On va faucher, j'étais pas là pour le voir, mais partout, on va faucher partout où on peut pour faire du foin, dans des endroits inaccessibles pour récupérer de l'herbe. Voilà. Donc c'est ce monde plein qui pose d'énormes problèmes, et paradoxalement, la pandémie de 1348 va arranger les choses. Parce que d'un seul coup, il va y avoir des terres disponibles, et on va le voir à travers la justice, vous allez voir, Ça arrange les choses, à cause qu'il y a plus de terres disponibles et plus d'espace. Il y a moins de conflits. Alors, quelles sont les catégories sociales des inculpés ? Sans surprise, 97% d'entre eux, ce sont de simples habitants, comme disait moi. Voilà. Pour 2%, ce sont les communautés d'habitants dont je vous ai parlé. Alors, ce chiffre de 2%, il faut le relativiser, parce qu'une communauté d'habitants, c'est beaucoup d'habitants. Donc, en fait, ça fait un peu plus, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait pas mal de personnes quand même. Enfin, ce sont des habitants, quoi. Ce sont des petits, dirait-on aujourd'hui. Et puis les notables, les notaires, les châtelains, les métros, les chevaliers, les écuyers, les curés, vous voyez, 1% du total. Hein, ils ne sont pas tellement verbalisés. Vous avez ici, alors, un classement que j'ai fait. Bon, encore une fois, c'est des graphiques compliqués à lire. C'est même pas la peine de les regarder. Vous écoutez ce que je vous dis. En jaune, vous avez les atteintes aux personnes. Vous voyez, la même courbe. Ça monte et ça descend. En bleu, c'est les atteintes aux biens, même qu'au rue. Et puis, en gris, ce sont les infractions administratives, même qu'au rue. Vous voyez, tout se comporte de la même façon. Les infractions administratives, vous avez compris ce que c'est simplement faire quelque chose qui est interdit par la loi. Voilà, vous n'êtes pas battu avec quelqu'un, mais vous avez, par exemple, occupé un espace qui est pas autorisé. Voilà, donc je passe. Alors, les amendes non payées, je vous en ai parlé. Les défections cavalcades, je n'y reviens pas, on en a parlé. Ce qui concerne les atteintes aux biens ou aux personnes, vous avez ces fameuses insultes qui sont très importantes, là, en marron. Vous voyez, qui diminue avec le siècle, vous voyez, pareil. Les agressions, qui, elles, restent, raisonnables. Et puis, les rixes entre habitants, par contre, vous voyez, ont tendance à vraiment être constantes jusqu'à la fin du siècle. En fait, les gens continuent à se bagarrer. Alors, il n'y a pas de sang qui coule, quand on parle de rixes. C'est juste une bagarre, quoi. Mais c'est suffisamment violente pour porter plainte, quoi. Et puis, je vous ai mis en blanc, voilà, les dénonciations abusives. Vous voyez, elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a quand même ici. Voyez. Les viols, les adultères, les homicides. Alors, en jaune, les viols. Vous voyez, la courbe, elle fait un peu pareil. Elle monte, elle redescend. Il y a un petit recrudescence ici. Les chiffres que vous voyez, c'est par décennie, en fait. J'ai regroupé par décennie, parce que par an, ce n'est pas représentatif. Les adultères, bizarrement, eux, augmentent avec le siècle. Et puis, j'ai mis ici les meurtres. Alors, j'aurais pas dû le mettre ici, puisqu'on est dans la basse justice. Donc, les meurtres, c'est dans la haute justice. Mais je les ai mis là parce que ça rentre dans les atteintes aux personnes. Et puis, c'est intéressant de voir que les meurtres, vous voyez, diminuent ici à la fin du siècle. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est d'essayer d'estimer le nombre de crimes pour le comparer à d'autres périodes, en particulier à notre période. On vous a souvent dit à l'école, moi c'est ce qu'on me disait, que c'était un Moyen-Âge sanglant, on s'égorgeait à chaque coin de rue. Vous allez voir que je vais vous démontrer le contraire. Alors, donc pour les viols, l'expression est assez sympathique parce qu'il a connu charnellement. Vous voyez. Les adultères, j'ai relevé 125 affaires, 39 alors imputables, payées par des femmes. Enfin, c'est l'amende qui est payée par des femmes, un tiers à peu près, et deux tiers, c'est payé par des hommes. Voilà. Alors, les meurtres dont je vous parlais, pour 10 000 habitants, j'arrive à 0,34 meurtres par an, pour 10 000 habitants. Si l'on prend le taux de la France contemporaine, en particulier celui de la fin du XXe siècle, alors c'est pour 100 000 habitants, attention, donc il faut multiplier par 10 ou diviser par 10. Vous prenez ici l'année 1997, ici, vous avez 3,2 ici. Non, parce qu'il faut diviser par 10, parce que c'est 100 000 habitants. Donc 3,2, ça fait 0,32. Vous vous rendez compte qu'à la fin du XXe siècle, en France, c'est le chiffre de la France, il y a autant de meurtres au XXe siècle, à la fin du XXe siècle en France, qu'au Moyen-Âge, au XIVe siècle en moyenne. Le Moyen-Âge n'est pas plus sanguinolent qu'aujourd'hui. Les gens étaient relativement raisonnables. Voilà. Alors, j'en profite pour vous souligner que, regardez, au XXIe siècle, le taux, comme il a chuté. C'est très étonnant. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais le taux est tombé à 1,2, là, ici. 1,2. Voilà, c'est très étonnant. Il y aura une chute de la criminalité. Ça remet en question ce qu'on nous annonce sur les chaînes d'information, par exemple, en permanence. Alors, les infractions administratives, alors je vais être très rapide là-dessus, mais elles sont très intéressantes parce que, vous voyez, les occupations illégales, elles sont en bleu. Vous voyez ici, le pic, ici, là, les occupations illégales, on est juste au moment de la peste. Et après la peste, regardez le bleu, il n'y en a plus. Ben oui, il y a des terrains disponibles. Les infractions sur le bois, pareil, c'est en marron, les infractions sur le bois. Alors, je passe certains trucs qui ne sont pas intéressants. En rouge, c'est pas d'autorisation. Alors ça, c'est à peu près tout le temps. C'est par exemple quelqu'un, j'avais l'exemple de quelqu'un qui s'est à Saint-Michel, il fait une rigole pour arroser son champ, on a le droit de le faire, sauf que il faut demander l'autorisation, et puis quand on a fait sa rigole pour irriguer son champ, il faut la recouvrir avec des planches pour permettre au chariot de passer, quoi. Donc le gars l'a pas fait, il n'a pas demandé l'autorisation, il a été verbalisé sévèrement, quoi. Les mesures illégales, les mesures, alors il y a un contrôle des mesures, des poids et mesures, forcément. Il y a à la Chambre, Saint-Michel, Termignon, C'est pas les mêmes mesures. C'est pas les mêmes mesures. Bon. Mais le comté de Savoie a décidé qu'à la chambre, le pot de vin, il devait faire telle contenance, à Saint-Michel, telle contenance. Elles sont marquées par le sceau du comte. Et là, donc, c'est en couleur jaune ici. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Mais là, hop, ici, vers 1347, je crois, il y a un pic. Tout simplement parce qu'il y a eu une descente de police dans toutes les auberges de Maurienne. Et les auberges de Maurienne, il y en a à la chambre. L'auberge du Coq, à la chambre. Il y a l'auberge de l'Ange à Saint-Michel. Enfin, il y en a plein comme ça. Et donc, ils ont aperçu que les taverniers utilisaient des pots plus petits que la mesure légale pour servir leurs clients, forcément. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et puis, la dernière chose que je voudrais attirer votre attention dessus, c'est les inventaires après décès non faits. C'est ici représenté en violet. Alors, vous en avez nulle part, quasiment. Vous en avez qu'ici. Qu'est-ce que c'est, ces inventaires après décès? Ben, c'est comme aujourd'hui, quand quelqu'un décède, vous allez chez le notaire et on fait l'inventaire des biens pour les droits de succession, enfin, voilà, les héritiers, etc. Donc ça se fait dans un délai d'un an. Si vous ne le faites pas dans un délai d'un an, vous êtes verbalisé. Alors pourquoi ici ce pic? Eh ben voilà, il y a eu trop de morts. La peste 1348 a tellement de morts que même les héritiers quelquefois sont morts. Donc il y a plein d'inventaires qui n'ont pas été faits. Donc les héritiers, peut-être les petits-enfants, payent les droits sur leurs parents et sur leurs grands-parents qui sont morts. Voilà. Pour ça qu'il y a ce truc. Voilà, je passe rapidement. On en vient à la partie la plus difficile, hein, c'est la haute justice, les choses graves. Cette expression que j'ai mise, c'est le maire et mix-empire, ça veut simplement dire que quand un seigneur comme l'évêque de Maurienne ou le comte de Savoie a tous les pouvoirs, on dit qu'il a le maire et mix-empire et omnimode juridiction. C'est un terme un peu technique, mais ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs. Donc là, c'est le cas du comte de Savoie. Et c'était le cas de l'évêque jusqu'en 1326. Voilà, c'était encore le cas de l'évêque, après c'est plus le cas. Alors l'échelle des sanctions et leur application. Alors là, bien sûr, on n'est plus à notre époque. Alors, si la justice ressemble à celle de notre époque, les sanctions, c'est pas les mêmes. Hein. Je vous préviens, les personnes sensibles peuvent sortir. La sanction financière, on l'a abordée, hein, c'est le cas pas très grave. Eh bien, un simple vol peut... Amputation de la main, mais bon, c'est pas un simple vol, c'est un vol important déjà. Ouais. Amputation de la main. Également le fouet et l'essoreillement. L'essoreillement, c'est l'amputation de l'oreille. Si vous récidivez, on vous ampute les deux oreilles. La pendaison, là, les cas vraiment les plus graves de vol, toujours dans les vols. Hein. Pendaison et même noyade. Et puis, alors là, c'est un peu plus tardif, c'est un manuscrit, vous voyez, bon, ça, c'est le genre de manuscrit sur lequel je travaille. Ça date de 1406, mais j'ai pris cet exemple parce qu'il regroupe tous les cas que j'ai... voilà. Il a payé... il y a la traduction dessous. C'est le châtelain de Maurienne qui a payé par la main de son lieutenant pour la poursuite d'Étienne Pirel, qui fut pendu aux fourches. Alors, les fourches, c'est une potence, en fait. C'est ce qu'on appelle des fourches patibulaires. Voilà. Patibulaire, ça vient du latin, du verbe latin pateo, souffrir. Quand vous allez chez le médecin, vous êtes un patient. Vous souffrez. Les fourches patibulaires sont dressées, donc il est pendu. Le deuxième, Jean Montagina, on lui a coupé le poing. Donc lui, c'était sans doute un voleur. Et Jean Villard, à qui on a coupé l'oreille. Et puis Jean Billot, le dernier, il a simplement été fouetté, comme cela est détaillé ci-dessous. Alors il y avait la suite, je ne vous l'ai pas mise. Voilà, donc on n'est que dans le cas d'un vol, hein, mais bon, des vols déjà assez importants. Et puis alors, je voudrais vous parler de ce cas dramatique d'un juif qui s'appelle Mouxéus, c'est un rabbin, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, il se trouve, en 1340, au début juin 1340, il se trouve à Villargondran, ici, au château de la Garde. Le château de la Garde, c'est le château de l'évêque, en fait. L'évêque s'est fait construire, il l'a refait faire à neuf en 1303. Le château est tout neuf, il y a des appartements, il y a une prison, il y a une chapelle, enfin, il y a tout ce qu'il faut, hein. C'est vraiment il y a une belle demeure. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à Villargondran. Il n'y a plus que des pierres qui sortent de terre un peu, là, malheureusement. Par contre, il n'y a aucune fouille qui a été faite. Hein. Il y aurait de quoi faire. Hein. Donc, ce juif se trouve à Villargondran. Et il a la malencontreuse idée. Ça me rappelle un peu l'épisode dans Les Misérables de Victor Hugo, au départ, Jean Valjean qui rentre chez Monseigneur Myriel, c'est ça, hein, Myriel, et qui lui vole, à Digne, et qui lui vole trois chandeliers. Il part et les gendarmes l'attrapent, le ramènent chez Mgr Myriel. Et Mgr Myriel, dans un élan de solidarité chrétienne, dit « Mais non, il ne les a pas volés, c'est moi qui lui ai donné. » Voilà. C'est le départ de l'histoire de Jean Valjean. Voilà. Eh bien, là, c'est malheureusement plus dramatique. Ce juif, donc, a volé ici, à Villargondran, dans le château de l'évêque, il a volé un vase en argent. Alors, c'est pas précisé, mais je suppose que c'est un objet du culte. Alors, c'est d'abord un objet du culte, donc c'est très, très grave. En plus, c'est un juif. Donc, c'est pas très bien, quoi. Donc là, immédiatement... Alors, il s'enfuit, hein, il s'enfuit. Et immédiatement, donc, le courrier de Maurienne, vous vous souvenez du courrier, hein, l'officier de justice de Saint-Jean de Maurienne, sur les ordres de l'évêque, envoie des cavaliers pour essayer de le retrouver. Alors, on va bloquer le pont de Villargondran, qui existe... pas de Villargondran, de Villars-Clément, qui existe déjà. Et puis, on bloque le pont d'Hermillon, qui existe déjà, mais le juif, il n'est pas là. Alors, il continue dans la vallée, et il le retrouve finalement à Saint-Étienne-de-Cuisnes, réfugié chez un noble. Famille noble, il y a les Dupont qui sont là-bas, il y a les seigneurs de Cuisnes. Et bon, bah, très bien, il a été retrouvé. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La justice, quand c'est grave, on doit appliquer le jugement et la sanction à l'endroit de son crime. Ça veut dire que là, le juif en question, il faut le ramener à Saint-Jean-de-Maurienne, voire à Villargondran. Plus exactement, je pense à Saint-Jean-de-Maurienne. Mais c'est là que les choses se compliquent un peu. C'est que je vous ai parlé du domaine épiscopal et du domaine comtal. Ramener le juif de Saint-Étienne-de-Cuisnes, où on est dans le domaine du comte, à Saint-Jean-de-Maurienne, où on est dans le domaine de l'évêque, c'est comme extrader quelqu'un, aujourd'hui, entre le Mexique et la France. On ne fait pas n'importe quoi. Alors les cavaliers qui l'ont capturé l'amènent à la chambre, parce qu'à la chambre, il y a le châtelain, le représentant du comte, pour lui demander l'autorisation de le ramener à Saint-Jean-de-Maurienne. Le châtelain dit « Ouh là là, attendez, attendez, pas si vite, il faut que j'en réfère aux autorités supérieures. » Le châtelain envoie deux messagers à Chambéry pour aller voir le conseil résident dont je vous ai parlé, le conseil autour du comte. Le conseil résident dit « Ok, vous pouvez le transférer à Saint-Jean-de-Maurienne. » L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais le comte de Savoie, il s'appelle Aymon à cette époque. Le comte Aymon, il envoie immédiatement un cavalier à la chambre, Chambéry-la-Chambre, hein, ça fait 60 km, pour demander au châtelain de dire « Attendez, vous êtes passé il y a quelques jours voir le conseiller résident, mais moi j'étais malade, dit le comte Aymon, donc vous allez revenir avec le dossier du juif parce que je vais l'examiner moi-même. » Donc le châtelain renvoie, cette fois il y va lui-même, à Chambéry, et il présente le dossier au comte de Savoie directement, qui était malade la première fois. Et le comte de Savoie lui dit, voilà ce que vous allez faire. Vous allez rapatrier ce juif à Saint-Jean-de-Maurienne. Vous allez l'incarcérer et l'interroger, le questionner. Questionner, hein, c'est une torture, hein, d'accord, la question. Et le faire avouer. Et quand vous aurez ses aveux, vous revenez me voir pour que je prenne la décision. Je vous ai parlé du 1er juin, on est déjà le 15 juin. Là, hein. Ça a pris 15 jours, tout ça. Donc, vous me direz, aujourd'hui, la justice n'est pas beaucoup plus rapide. Hein, mais bon... Voilà, le châtelain donc s'exécute, fait torturer le juif qui avoue, évidemment. Il retourne, le châtelain retourne à Chambéry. Le comte Aymon examine le dossier, dit « Bon, ok, c'est la condamnation à mort, il sera pendu. » Donc le châtelain revient donner les instructions au courrier de Maurienne, qui est donc à Saint-Jean, et à l'évêque, et on décide de le pendre. Donc il faut aller chercher le bourreau, il n'habite pas Saint-Jean de Maurienne. Donc on envoie encore des messagers à Miolan, vous voyez où c'est Miolan, dans la comte de Savoie. On va à Miolan chercher le bourreau qui habite là-bas. Il vient avec ses aides. Hein. On construit des fourches patibulaires. Cette fois, vous savez ce que c'est. Et on va pendre le juif. Et alors, ce qui est assez dramatique, c'est qu'on a beaucoup de détails sur cette pendaison. Je vais essayer de vous montrer le... Alors, déjà, le lieu de pendaison. Je ne le connais pas, en fait. Mais j'ai presque des certitudes. Pour ceux qui connaissent Saint-Jean-de-Maurienne, il y a un rocher d'escalade qui existe autrefois. Je ne sais pas s'il existe encore. Je m'adresse aux spécialistes. Non, il existe encore, le rocher d'escalade. Vers l'entrée de l'autoroute, là, du côté de la montagne du Sapet. C'est là où s'entraînaient les jeunes qui faisaient de l'escalade. Voilà. Et là, il y a un rocher qui s'appelle le rocher des pendus. Il se trouve ici, là. Ici, là, vous voyez. Alors pourquoi je pense que c'est pas pour rien, enfin, qu'il a certainement été pendu à cet endroit? Parce que les pendaisons se font toujours dans un lieu très en vue de la voie publique, de façon que les voyageurs, les marchands, etc., ou les malfaiteurs qui viendraient à traverser la Maurienne, se rendent compte qu'à Saint-Jean-de-Maurienne, on ne plaisante pas. Donc, c'est un lieu, à mon avis, qui est probable, hein, sans en avoir la certitude. Oui, mais enfin, moi, je fais beaucoup, très confiance à la toponymie. Hein. Donc, quand il y a un rocher, ça s'appelle le rocher des pendus. Oui. Alors, bon, je ne suis pas certain, mais le reste, c'est... Voilà. Moi, je crois que c'est certainement ici. Hein. De toute façon, c'est sûr, Saint-Jean-de-Maurienne, c'est sûr. Voilà. Alors, la fin de l'histoire, l'épilogue que je vous ai mis là, je vais vous montrer le texte parce que c'est encore plus dramatique. Voilà, donc le texte latin, vous avez la traduction ici que j'ai mis. Il a payé à plusieurs personnes. Donc, il, c'est le châtelain, pas le châtelain, c'est le courrier de Maurienne, l'évêque. Hein. Il a payé à plusieurs personnes, gardant jour et nuit durant 6 jours, pendant lesquels il a survécu aux fourches, afin qu'il ne soit pas décroché. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que ce n'est pas une pendaison, ce qu'on appelle une pendaison par chute, c'est ce qu'on appelle une pendaison lente. C'est-à-dire que la personne est pendue, mais garde à l'appui sur ses pieds, partiellement. Voilà. Alors, je vais revenir sur le texte, là. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me représenter cette scène. Voilà, et voilà ce qu'elle m'a représenté. Voilà, vous avez l'arc ici, hein, bon, les montagnes, ce n'est pas les mêmes, bien sûr, mais vous voyez ces fourches patibulaires avec...
quand il est fatigué,
quand... Voilà, quand il n'en peut plus, il meurt. Il a tenu 6 jours. Quelle horreur, oui. Bah, d'inanition, il n'y a plus de fatigue. Bon, de fatigue, il y a de fatigue ici, il s'est tout pendu, quoi. Pas boire, etc. Ouais. Alors, un autre crime éminemment grave, bien sûr, l'incendie, je vous ai dit que tout était en bois. Si vous mettez le feu à une maison, tout brûle. Alors là, c'est une dame. C'est la femme de Pierre Brunet, Brunardi. Oh, bah, j'ai la traduction, je suppose, dessous. Voilà. Pierre Brunard. Qui a été détenue à Saint-Jean, de Maurienne, hein, pendant 15 jours, parce qu'elle avait mis le feu dans 3 maisons à Saint-Jean d'Arles. Et pour cela, elle fut brûlée. Voilà. Donc là, elle était brûlée très probablement à Saint-Jean d'Arles. Alors, que vous voyez ici, l'argent qui est ici, 7 deniers, bah, c'est les frais. Hein, parce que quand vous avez, je vous l'ai dit, quand vous avez quelqu'un en prison, il faut le nourrir. Et puis, il y a éventuellement les frais du bourreau. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a la. C'est une chance, on a des traces grâce à ça. Un cas d'homicide, cette fois, le meurtre de Jean Rossa. Alors Jean Rossa, c'est un fonctionnaire du tribunal de Saint-Jean, de l'évêque, donc un personnage important, qui est chargé de rendre la justice hein, aussi, et donc qui a dû faire quelque chose qui n'a pas plu à certaines personnes, et il a été assassiné. Alors je ne sais plus dans lequel c'est, voilà. Pendant le premier, là, voilà, il a payé les dépenses de plusieurs personnes, gardant les ponts, parce qu'ils sont échappés, ils sont froids, ils se sont échappés. Alors, on fait garder les ponts d'Hermillon, de Villars-Clément, et certaines autres personnes ont été envoyées aux Arbres pour la surveillance des passages et des cols. Parce que, voilà, c'était l'habitude de se réfugier en Dauphiné, puisqu'on change de pays, quoi. Afin de capturer ceux qui avaient tué Jean Rossa, un membre du personnel du tribunal, le 27 avril de l'année 1342. Voilà, alors, Guillaume Imbert, qui avait tué le 10 Jean, a été capturé, et par la suite pendu. Alors, je ne vous raconte pas la suite de l'histoire, mais les autres, il y en a qui s'est réfugié vers Briançon. On l'a retrouvé, mais pareil, il faut l'extrader. Et comme on est chez le dauphin, c'est l'ennemi. Hein. Donc, le dauphin a dit, bah non, rigolez, non, je ne vais pas l'extrader, je le garde. Donc, il est resté là-bas. Et il a eu la vie sauve. Voilà. Et puis, le troisième, on ne l'a jamais retrouvé. Voilà, donc, un cas d'homicide. Le moteur que je vous montre de recherche, c'est un moteur que j'ai créé, moi. Ça me permet de mettre toutes les... J'arrive à 200 000 lignes de latin. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait à peu près 60 000 paragraphes. Donc, ça me permet de retrouver facilement. Vous voyez, pour une recherche textuelle, vous tapez adultère, vous tapez... Enfin, en latin, bien sûr. Vous retrouvez facilement les termes. C'est pour ça que je vous les montre facilement. Donc, le salaire du bourreau, ça peut être intéressant. Alors, 12 deniers, ben, c'est pour 3 jours. 4 deniers par jour. Maintenant, vous savez ce que ça fait, hein, 4 deniers par jour. Bon, c'est un bon salaire, quoi. Mais sans plus. Hein. Moi, je ne le ferai pas pour 4 deniers par jour. Alors, le cas particulier du suicide, ça, c'est intéressant. Parce que le suicide, bah, c'est un crime. C'est un crime très particulier où la victime et le coupable sont la même personne. Et c'est un crime contre le sacré. Donc, voilà, si vous suicidez, vous allez jeter l'opprobre sur toute votre famille. On va vous le dire. Alors, grâce à une lettre qui s'appelle une lettre de supplique, j'ai pu retrouver le déroulement de la procédure en cas de suicide. Ça se passe à Lons-le-Bourg. C'est une femme qui s'appelle Isabelle, qui s'est pendu dans sa maison. Alors le texte est ici. Donc elle s'est pendue, et là on a affaire à ses enfants, qui s'appellent Jacques et Catherine, qui sont les enfants de Jean Viriot, qui lui est mort, et qui adressent cette lettre de supplique au comte de Savoie à propos de la mort de leur mère Isabelle. Parce que, la procédure était la suivante. Au moment de la mort, pour décrocher la suicidée, il faut faire appel à un officier habilité. Et ici, c'est donc le vice-maître de Lens-le-Bourg qui était appelé, et avec deux autres personnes, Étienne Burdin et... Vous voyez, on trouve des noms qui existent toujours, Burdin, c'est bien de là-haut. Et donc, ils ont décroché Isabelle de sa potence, et la procédure ne s'arrête pas là. C'est que le châtelain de Maurienne a fait le déplacement depuis la chambre jusqu'à Lens-le-Bourg pour ordonner à ses hommes sur place de construire une potence à l'extérieur de la maison. C'est marqué sur la maison. Alors, est-ce que c'est sur la maison ou un peu en dessus de la maison, pour rependre à nouveau le corps de la dite Isabelle, pour l'exposer à la vue de tout le monde. Voilà. Alors, le châtelain était prêt à le faire, et heureusement, au Moyen-Âge, il y a beaucoup de choses qui se négocient par des compensations financières. Alors, il s'appelle Bertrand Thorin, c'est le vice-châtelain, pardon, c'est pas le châtelain, mais peu importe. Il a informé Jacques et Catherine, les suppliants, qu'il ferait poser des fourches patibulaires sur la maison où Isabelle s'était pendue, et qu'il y ferait suspendre le corps mort de leur mère par ceux qu'il avait déposé de la corde où elle s'était suicidée. Voilà, c'est la procédure normale. Alors, ils ont discuté avec le vice-châtelain, et moyennant une très forte somme d'argent, il a accepté de ne pas faire la procédure. Mais bon, la somme d'argent est énorme, parce que je crois qu'il y a 26 florins ici, d'une part, mais il n'y a pas que ça. Il faut payer toutes les personnes qui sont intervenues, plus des amendes. Enfin, ça fait des sommes folles. Et d'où cette lettre de supplique qu'envoient les enfants au comte de Savoie pour dire, écoutez, nous, on ne peut pas payer, on n'a pas l'argent, faites-nous un cadeau. Alors, la somme ne sera jamais payée. Je retrouve, on est ici en 1377, je retrouve la somme encore en 1400, 30 ans plus tard, la somme est toujours dans les comptes, elle n'a jamais été payée, parce qu'ils ne peuvent pas la payer. Et en revanche, il se pose un problème, c'est que, ça vous le savez, on ne peut pas enterrer un suicidé dans l'église paroissiale, dans le cimetière de l'église paroissiale. Donc, ils l'ont enterré provisoirement dans un champ qui lui appartient. Et puis, les gens s'en aperçoivent, donc les dénoncent, parce que il faut une autorisation. Donc, le châtelain le comte de Savoie envoie une amende de 50 florins qu'il faut payer pour... j'ai la traduction, je suppose. Voilà. Pour accorder à Jeannette et Catherine, donc à l'époque c'est Jeannette et Catherine, je suppose que le fils était mort, les filles de la dite Isabelle, pour l'enterrer dans un murger ou un champ. Le murger, c'est le petit mur qui est autour des champs. Voilà, donc là, elle est enterrée cette fois, mais moyennant encore une fois une contribution financière. On ne plaisante pas avec le suicide. Les faux monnayeurs. Alors, les faux monnayeurs, j'en ai pas trouvé en Maurienne. Oui, pardon. À quel endroit? À Beaune? Dans quel village? Oui, d'accord. Alors les faux monnayeurs, je vous disais, j'en ai pas trouvé en Maurienne. J'ai trouvé des Mauriennais qui utilisaient de la fausse monnaie. C'est pas très grave à l'époque, on paye une amende, c'est pas grave. Par contre, j'en ai trouvé à Montmélian, dans la châtellenie de Montmélian. Ce sont trois Piémontais. Ça c'est peut-être latin, je vous mets la traduction. Ce sont trois, ils sont originaires de Côme et de Turin. Ils ont été détenus captifs à Montmélian pour avoir frappé de la fausse monnaie. Les deux premiers ont été détenus pendant 11 semaines et 6 jours à Montmélian jusqu'au vendredi 12 décembre 1340. Et le samedi matin, ils ont été brûlés à Chambéry. Quant au troisième, qui s'appelle Philippon, c'était sans doute qu'un complice, puisqu'il n'a pas été condamné à mort. On l'a détenu 6 semaines supplémentaires à Montmélian. Et ensuite, on l'a envoyé à Veillane. Veillane, vous savez où c'est dans, à Veillane, dans la vallée de Suse. Hein. Au châtelain d'Aveillane, de Veillane. Et il a été enchaîné, sa maison a été détruite, et il était banni du comté de Savoie. Donc il a dû se réfugier peut-être dans le Dauphiné, mais voilà, s'en est tiré, quoi. Alors, il y a un truc qui est assez marrant, ici, c'est la fin, c'est que le châtelain de Montmélian reçoit une gratification financière de, c'est pas très élevé, mais 8 deniers forts. Vous voyez. Tout simplement parce que les condamnés ne sont pas morts en prison, parce qu'il en a pris soin. Parce qu'il est supposé que quelquefois, on n'en prend pas tellement soin, quoi. Donc là, comme ils ne sont pas morts en prison, pendant le temps de détention, ben le châtelain reçoit une gratification. Oui. La magie et les arts diaboliques. Voilà. Alors, je parlerai après des sorciers. Hein. Ce n'est pas la même chose. La magie, c'est bon, le gars qui... Alors ça, c'est Blanche Pommard, elle habite des pierres. Elle est inculpée de pratiquer la magie. Elle paye 4 sous, 6 deniers, donc 4 fois 12, 48 et 6, 54. Voilà, 54 deniers. Bon, une amende forte, mais voilà. Lui, c'est un Jean qui est le fils de Guillaume Besset du Fronet, donc à côté de Milan, qui était accusé de s'être adonné en plusieurs lieux à la pratique des sciences diaboliques. Mais bon, vous voyez, ça va pas très loin. On paye une amende, ça va pas plus loin. On est très loin encore de la chasse aux sorcières qui va arriver après dans le siècle suivant. 15e siècle, ça je dois vous annoncer que la Savoie, elle est tête de liste dans la chasse aux sorcières. C'est là que ça a commencé vraiment de façon davantage qu'en France, davantage qu'en Allemagne. Donc, voilà. Après, ça s'est répandu partout, mais la France est tête de liste. Hein. Et particulièrement avec les statuts de Savoie d'Amédée VIII de 1430, où il rédige une vraie constitution. Alors ça, c'est le paragraphe qui concerne les hérétiques. Hein. Les hérétiques, les sorciers, les astrologues, les devins, etc., etc., doivent être extirpés du milieu des fidèles. Nous ordonnons et commandons à nos justiciers officiers de poursuivre rigoureusement tous et toutes, quel que soit leur sexe, quel que soit leur état, qui seront trouvés coupables des 10 crimes. Enfin, nous ordonnons à nos officiers suspensionnés, lorsqu'ils sont demandés par des juges ordinaires, les inquisiteurs de l'hérésie, hein, donc l'inquisition, de leur fournir immédiatement de l'aide, le conseil et le soutien. Voilà, donc ça aux sorcières, c'est le 15e siècle, c'est après. Même les médecins. Alors là, j'ai une histoire à vous raconter qui se passe à Foncouverte. Alors, je crois qu'on est en 1338. Il y a un habitant de Foncouverte qui a des coliques néphrétiques. Il a des calculs dans les reins ou dans l'urètre, je ne sais pas. Eh bien, ça s'opère à cette époque. On fait venir 2 médecins de la vallée de Grésivaudan et de Grenoble qui viennent à Foncouverte. Ils opèrent la personne qui est le patient. Et puis, le patient, au bout de 5 jours, il meurt. Parce que c'est marqué dans le texte, c'est marqué... Voilà, 2 médecins et chirurgiens qui avaient opéré un homme à Foncouverte pour l'extraire un calcul, homme qui est ensuite décédé dans les 5 jours à cause de la mauvaise et inapte incision de ces derniers. En fait, c'est sans doute pas l'incision qui est en cause, c'est plus la septicémie, quoi. Voilà, il est mort d'infection, sans doute. Hein. Mais enfin, vous voyez que des professions libérales sont poursuivies. Là, on envoie 2 cavaliers, Jean Boisson et Antoine Fahet. On les envoie aux Urtières et dans la vallée de Grenoble pour essayer de retrouver ces médecins. Alors, on en retrouve un aux Urtières, l'autre on ne l'a pas retrouvé, et celui des Urtières, on le ramène à Saint-Jean. Il est emprisonné pendant 109 jours quand même à Saint-Jean, et ensuite sa punition, bon, il est banni du domaine épiscopal. Alors, le domaine épiscopal, ça va être de l'argent, hein. Et puis l'Argentine, bon, c'est pas bien grave, hein. Il exercera sa profession ailleurs. Voilà. J'en arrive à ma conclusion, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Vous avez vu quand même que l'organisation judiciaire savoyarde à partir de la fin du XIIIe siècle, début XIVe, est très performante, avec des possibilités de recours. Hein, à Chambéry, il y a un juge des appels. On voit également l'emprise du comte de Savoie, avec l'épisode de ce juif. Vous avez vu que, finalement, l'évêque aurait pu gérer l'affaire tout seul, logiquement. En fait, c'est le comte de Savoie qui a pris la main. Et c'est le comte de Savoie qui, à partir de cette époque, et ça va être de plus en plus le cas, va laisser l'évêque exercer ses fonctions sacerdotales, mais tout ce qui est du domaine régalien, c'est-à-dire la justice, l'armée, tout ça, c'est le comte de Savoie. Voilà. Et ça va continuer après dans les siècles suivants. On se dirige donc vers l'État moderne. Également, noter le recours au compromis financier plutôt qu'à l'action judiciaire, ça, au Moyen-Âge, on sait transiger, on sait discuter, sans forcément se mettre sur la gueule. Quoi. Voilà. Et c'est pareil, par exemple, pour la guerre. Le comte de Savoie fait la guerre au dauphin, bah, les batailles sont violentes, bien sûr, mais quand vous avez 200 morts, c'est une grosse, grosse bataille, quoi. On est très loin des guerres napoléoniennes ou de la guerre de 14. Hein. Oui. On s'arrête parce que quand il y a 200 morts, on s'arrête. Quoi. Et bon, on va chercher une autre solution et on se rencontre. On fait venir les évêques, on discute, on essaie de trouver la paix, on fait un compromis, on signe une trêve. Voilà, mais c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on a au XXe siècle, par exemple. Une approche, c'est peut-être le point qui m'a le plus intéressé, c'est l'approche. Vous savez, l'histoire, c'est l'histoire des grands, quoi, des rois de France, des grandes batailles, des grands événements. On parle très, très rarement des petits, quoi. Voilà. Et là, à travers la justice et grâce aux archives de Savoie, on voit vivre ces gens du XIVe siècle comme vivaient, enfin, je rappelle mes grands-parents, quoi. Mes grands-parents, ils allaient en alpage, il ne fallait pas y aller avant la Saint-Jean-Baptiste, il y avait des dates. Voilà, vous partiez à l'automne, ils avaient des problèmes avec les voisins, des problèmes de propriété, de voisinage. Les choses sont les mêmes. Hein. C'est assez étonnant de voir qu'entre le XIVe siècle, et je dirais peut-être la moitié du XXe siècle, les choses, mis à part le café, et je dirais pas l'électricité, parce qu'il n'y avait pas l'électricité au chalet, mais à part le café, le sucre, la pomme de terre, il n'y a pas grand-chose qui a changé, quoi. Voilà. À l'époque, ils n'avaient pas de pomme de terre, pas de sucre, pas de café, d'accord, mais la vie était la même. Les mêmes problèmes. Donc c'est le point qui m'a le plus intéressé, c'est ça, c'est de pouvoir faire revivre nos aïeux, les petits, quoi. Voilà. J'en ai terminé, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Pourquoi cette femme qui s'était pendue, on voulait la reprendre
en... Alors je répète, parce qu'elle ne peut pas parler fort, la dame, si j'ai bien compris. Elle me demande pourquoi cette femme qu'on a dépendue, qu'on veut la rependre à nouveau.
Ouais, voilà.
Eh bien, parce que je n'ai pas assez insisté là-dessus, c'est qu'en fait, le suicide, c'est grave et ça jette la honte sur la famille. Donc pour bien montrer à tout le village de Lons-le-Bourg que cette famille n'est pas honorable, on va reprendre et exposer cette femme, alors combien de temps, je ne sais pas, pour montrer à tout le monde que, voilà, la honte. Les gens qui passent, ils disent, voilà...
C'est ça, je ne suis pas plus pour dissuader.
Non, c'est la honte. C'est la honte jetée sur la famille.
C'est ça, l'opprobre.
Ouais.
Okay. Merci. Mon Dieu.
Oui, pardon.
Ah,
c'est plus tard, hein. c'est 16e, oui. J'ai pas la date exacte de la création, mais j'y connais rien, pas là. Je m'arrête à mes débuts.
Les juges étaient formés.
Ah oui, oui. Ah oui, les juges, c'est des gens. Ils sont, ils font les écoles italiennes. Ils vont à Bologne. Ils font des études sérieuses. Hein. Ils ont des titres universitaires. Hein. De même, même les notaires ont une formation de base. Oui.
Dans cette période. Comme vous avez parlé de juifs et de peste, ça me fait penser que vous êtes peut-être mis la main sur les histoires qu'il y a eu à Montmélian entre la population qui accusait les juifs d'avoir apporté.
Oui, alors c'est
le rôle du comte.
Ça s'est fait partout, ça, en France, en Savoie. Mais on a un exemple plus près. On a un exemple avec Belle.
Oui.
Avec Belle, il y a 18 juifs qui ont été tués par les habitants d'Aigbel ou des environs, parce qu'ils étaient accusés d'avoir mis empoisonné les puits au moment de la peste. Hein.
J'ai entendu dire que le comte avait sauvé un certain nombre de juifs.
C'est exact. Le comte de Savoie, alors sur Chambéry, a sauvé des juifs, oui. Pour la petite histoire, c'est déjà à cette époque, en Savoie aussi, qu'on a commencé à marquer les gens de religion juive. Hein. C'était pas l'étoile jaune, hein, mais c'était la rouelle, oui. Marqué dans le dos.
On l'a connu grâce à un ami italien, une famille romiliane. famille était du côté de Cuneo et qu'ils se souvenaient encore l'histoire qui leur était arrivée à cette époque-là. Et donc ils s'appelaient Momigliano, ce qui veut dire Momigliano, en
Yalaï. Ah ouais, d'accord. Très bien.
C'est dans les familles juives qu'il y a de la. Il y a de la mémoire.
C'est sûr, oui. Oui, pardon.
Ce que je vois aussi, c'est que dans toutes les peines que vous avez, dont vous avez fait état, il n'y a aucune peine de détention longue comme il y a pu y avoir, par exemple,
non.
Il y a des années plus tard.
Ça n'existe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, la détention.
Ah, ouais.
Il n'y a pas de peine de détention. Ça n'existe pas.
C'est une détention provisoire seulement.
Bah oui, voilà, détention provisoire et après sanction. On coupe le poing, si c'est grave, on libère à moyen d'amende si c'est pas trop grave, hein, ça peut arriver aussi. Mais il n'y a pas de peine de détention, ça n'existe pas.
Et ça, c'est les peines de détention là, c'est apparu
Là, je vais sortir de mes compétences. Hein. Je pense que c'est 16e siècle. Bon, après évidemment, c'est au 18e,
le théorie,
17e, le 14e, hein, voilà. Là, ça existe. Hein.
La théorie des droits criminels, c'est le Cariat, c'est 18e, ouais. Siècle, 18e siècle, 19e siècle.
Ouais, ouais, mais je pense que déjà sous le 14e, c'est déjà bien.
C'est,
au 17e, le masque de fer, je ne vais pas vous raconter l'histoire, quoi. Bon, c'est. C'est 17e, mais bon, il est
détenu. Oui, mais dans le domaine de la lettre de cachet, quoi.
L'intendant Fouquet qui est empoisonné à vie, c'est Louis XIV, bon, c'est 1680, quoi. Voilà.
Et la formation des cadres judiciaires.
Alors, la question m'a été posée, mais c'est, je vais le préciser pour tout le monde. Les juges, par exemple, sont des gens qualifiés. Ils ont fait des études. À Bologne, généralement, c'est les universités italiennes qui sont très cotées dans le droit. Ils ont des diplômes. C'est des gens qui connaissent le droit. Et c'est la grande époque du droit romain. Puisqu'avant, on était sur le droit coutumier. C'est-à-dire que chaque région avait ses habitudes de justice. Là, on rentre dans le droit romain. C'est-à-dire très formel, écrit d'abord. C'est à l'époque où les gens commencent à écrire. Vraiment, quoi. C'est le 13e, 14e. On écrit beaucoup. Davantage qu'avant. Parce qu'avant, il n'y avait que les puissants qui écrivaient pour écrire des chartes, des diplômes, des choses comme ça. Et celui-là, tout le monde écrit. Le paysan de Maurienne, il va voir le notaire du coin, là, il ne va pas le voir, parce que genre, c'est le notaire qui vient le voir, il le paye, et puis le notaire rédige, voilà, par exemple, un acte de succession ou une lettre au comte. Les gens écrivent. Et on a la chance d'avoir beaucoup de documents.
Et les avocats, ça porte du temps.
Bonne question, madame. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Tout en latin.
Ah oui, là, on est en latin, oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans la période sur laquelle je travaille, moi, je travaille jusqu'en 1416. 1416, vous savez, c'est la période pour la Savoie importante, c'est qu'on passe d'un comté à un duché. Amédée VIII devient duc de Savoie. Alors, plus tard, on sera roi de Fillon-Sardaigne, mais là, on est passé de comte à duc. Donc, 1416, on commence à parler le français. J'ai des lettres de la femme d'Amédée VII qui rédige. Elle commande du safran à Saint-Michel. Et elle met toute la liste des épices qu'elle souhaite, avec les prix. Alors, on voit les prix de l'époque. Ils ont déjà tous les épices qu'on a aujourd'hui. Hein. Ça vient d'Orient. Hein, et donc, à la cour de Savoie, ils en sont friands. Le safran étant évidemment la plus chère. Voilà. Mais j'ai des preuves, dans le XIVe siècle, en 1320, la culture du safran ici. Voilà, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent.
Mais moi, c'est à Saint-Julien.
Saint-Julien et Saint-Michel. Ouais, bah, je suppose qu'il y en avait il devait y en avoir un peu partout. Hein. Pardon ? Que c'est quand un produit a de la valeur, en général, on cherche à l'exploiter un peu partout. Mais en fait, c'est dans la Basse-Vallée, quoi. C'est entre Saint-Jean et Saint-Michel, quoi. La zone. Pareil pour les vignes. Voilà, les vignes, c'est jusqu'à Saint-Michel. Après, il n'y en a plus. Non, j'en ai un au soie, ouais. J'ai des surprises d'en voir un au soie. Ben, en fait, le marron, contrairement à ce qu'on pensait, nous, on voit le marron avec la ramasse, la luge, etc. Mais c'est pas que ça. Ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des transporteurs routiers, en fait. Donc, on les embauche en plein été aussi, hein, pour transporter. Je vous ai parlé tout à l'heure de je vous ai dit n'importe quoi, j'ai dit une arquebuse, non, il me semble. C'est n'importe quoi. C'est une bombarde. Une arquebuse, pas lourd. Non, une bombarde. Ils ont transporté d'Aussois, en traversant le pont qui a en bas d'Aussois vers le Frenet, là. Il y a un pont, il y avait un pont en bois, ils ont traversé là avec une bombarde, des gens d'Aussois, des marrons d'Aussois, et ils l'ont transporté jusqu'au sommet du Mont-Cenis. Et puis après je n'ai pas la suite, mais c'était pour aller faire la guerre en Italie. Les premières bombardes vers la fin du siècle.
Ça pesait combien, ça ? Une centaine ou plus,
mais... Il ne le marque pas. Oh. Mais ça, c'était en bronze encore, hein, à l'époque, donc ça devait être lourd. Hein. Ouais. Donc les marrons, c'est en fait, c'est plus que des transporteurs, comme on pensait. Parce que, en fait, c'est toujours l'effet de source. On se fie aux sources qu'on possède, et les sources qu'on possède, elles sont du 16e, 17e. Vous avez des récits d'élite parisienne ou je ne sais où, qui ont traversé le Mont-Cenis et qui racontent. Alors, on est descendu à une vitesse folle le Mont-Cenis sur des luges, c'était... J'ai cru mourir. C'était... Voilà, on a ces récits qui restent parce que forcément, ces gens-là ont les moyens d'écrire et de publier des livres à l'époque, hein, 17e. Voilà, en fait, ils n'écrivent pas vraiment, ils ne connaissent pas les marrons, ils ne savent pas ce que c'est. Et en fait, ce sont des artisans qui travaillent pour transporter les choses à travers le Mont-Cenis. Et l'hiver, ils utilisent le système de la ramasse. C'est assez logique pour descendre une pente. À la montée, ils montent à pied, hein, mais à la descente, ils descendent. Voilà.
Mais à cette époque-là, la route officielle passait par Aussois et descendait...
Oui, le chemin du Petit Bonheur, je suppose. Là.
Ouais.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'il y a des marrons à Aussois, parce que la route, enfin, c'est
exactement.
Pas fait par le compte, encore. Il n'a fait qu'un, la route Madame Brabant, c'est
relativement... Ouais, elle existe déjà, parce qu'en fait, il y a beaucoup de routes à cette époque.
Ah, ouais.
En fait, les gens du Moyen-Âge passent partout. Nous, quand on veut aller à Grenoble par les montagnes, on passe par le col de la Croix de Fer. Mais eux, ils peuvent passer par plein d'autres cols. Ils passent partout, ça dépend de la saison, de l'enneigement, etc. Et pour les routes de Maurienne, du Front de Vallée, c'est pareil. Seulement, l'Arc n'est pas canalisé à l'époque. Il y a énormément d'inondations. Donc, quelquefois, par exemple, à Saint-Jean-de-Maurienne, il y a trois routes. On appelle ça la vie vieille. La vie vieille, vie, ça veut dire voie. Vieille. Il y a trois routes. Il y en a une qui passe le long de la falaise vers la carrière à pain. Celle-là, elle n'est pas tout le temps praticable quand l'arc déborde. Il y en a une autre qui passe le long de la plaine de Longchevent, le long de l'échaillon. Hein, l'échaillon, entre parenthèses, c'est l'échelle. Parce qu'on a taillé des échelles dans la montagne de l'échaillon pour passer. Et on arrive à Bélair-Clément. Et la troisième route, ben, c'est quand c'est tout inondé, on passe par Montandré. On va jusqu'à Montandré et on redescend par le petit chemin là, à Bélair-Clément. Il y a trois routes, vous voyez. Donc, en fait, des routes, il y en a beaucoup. Et la route principale, c'est bien celle d'Aussois, d'accord, qui passe en dessus. Mais il passe aussi en dessous, voilà. Par exemple, l'évêque de Maurienne, quand il veut se rendre en bas dans la vallée, il essaye de passer le long de la... de ne pas passer par le pont d'Hermion, il passe le long de la falaise. Et il va à Sainte-Marie-Thuine. Oui, Sainte-Marie-Thuine. Et c'est là où se trouve le rocher des Pendus, oui, exactement. Voilà. Bon. Pardon ? Alors, je ne suis pas allé voir, il y a la carrière à Prins.
Il y a la carrière à Prins. Ouais.
Ouais. Il y a un
pont
sur
la
guerre
qui
permet de
traverser.
Ah si, mais le pont d'Hermion existe déjà au 14e, il n'y a pas de souci, il y a un pont. Mais bon, ce pont, on ne veut pas toujours le prendre. D'abord parce que on rentre dans, déjà, on change de pays. Hein, on passe du domaine épiscopal au domaine comtal. Si vous avez des vaches avec vous, ou des moutons, ben vous payez un péage au pont d'Hermion. Donc si vous avez vendu des moutons à Sainte-Marie-de-Thuine, vous êtes à Saint-Jean, vous allez essayer de passer le long de la falaise, vous évitez le pont d'Hermion, par exemple. C'est un exemple. Voilà, bah, si vous n'avez plus de questions, on arrête là. Merci de... Si Dieu le veut.
Ouais, je vais regarder.
Le 21 septembre, le voyage d'Amérique aura lieu sous la conduite de Yannick Grand en direction du Monferrato, c'est-à-dire un autre pays savoyard pas très loin d'ici.
Oh là, il fait chaud, hein.
Oui, tu vois, j'ai pour regarder rapidement, ça m'a rappelé les cours de droit de mon enfance, les années d'étudiant. Oh là là, la distinction entre le délit légal et le délit qui est une défense à la religion, en fait, parce que ouais, tu peux dire que tu as cité, c'est ça. C'est le 17e siècle. Il n'y a pas ces Beccaria,
1764.
Et l'emprisonnement comme peine, c'est à la religion française.
Ouais.
Avant, il y a des lettres de cachet.
Oui, tu as raison, c'est pas,
il y a
une peine.
Il y a des lettres de cachet. Il y a des asiles où on enferme les vagabonds.
On ne dit pas, t'auras 10 ans de prison.
Tu prends 10 ans parce que tu as fait tel délit.
Non, t'as raison, mais t'as raison.
Et là, c'est la Révolution française. C'est la fin du
18e.
Tu as raison. Juste un renseignement, je faisais des recherches sur l'auberge de Villard-Clément.
Oui.
C'était une auberge, un relais de chevaux aussi.
Oui.
Et bon, il y a un de mes ascendants du côté de ma femme qui a été propriétaire. Mais avant, il y a un monsieur qui était propriétaire, justement, qui faisait comme l'auberge rouge. Il détroussait les gens et il a été pendu.
Ah oui, à quelle époque, vous savez, non?
Alors, c'était au Moyen-Âge. Et cette auberge, j'aurais voulu avoir des photos et tout, j'avais pas, parce qu'elle était emportée par l'arc.
Ah oui, d'accord.
Comme il était sur les pentes de Villard-Clément, il était emporté par l'arc. J'ai pas trouvé de.
Oui, c'est sûr.
Quand j'ai trouvé ce récit là de la personne qui était avant, qui était.
J'ai une autre question.